Espace-temps. À l'occasion du festival Les Musiques, proposé par le GMEM, les artistes et musiciens parlent de leur rapport à l'espace et au temps. Jeudi 14 mai, dans le temps de la nuit, des sons se jouent de l'espace avec Nocturne Electro. C'était dans la salle Seita de la Friche Nabel de mai, une proposition de l'association Art en Réel en coproduction et dans le cadre du festival Les Musiques, une programmation du GMEM. Lionel Gasparian, tu es l'un des artisans de cette mise en espace du son opérée par un acousmonium composé de 50 haut-parleurs. Comment est-ce que tu appréhendes et comment est-ce que tu décides de la topographie du son, c'est-à-dire du placement des sources sonores dans l'espace? Est-ce que c'est un repérage dans les lieux? Est-ce qu'il y a des recettes un peu générales? Ou bien est-ce que c'est une adaptation au cas par cas?
Très souvent... Évidemment, c'est en général le fruit d'un compromis entre ces différents facteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un peu de recettes, beaucoup de repérages, dans le sens où, effectivement, chaque lieu a des particularités qui doivent être utilisées, mises en valeur, ou des problèmes qu'il faut éviter. De la même manière, l'instrument que nous avons constitué a un archétype, une architecture de propre, qui lui est propre, qui est fonction des éléments qui le composent et qui font que y a des choses qui doivent être à certains endroits et qui ne peuvent pas être à d'autres endroits. Donc c'est encore une fois un compromis entre plusieurs facteurs.
Tu évoquais quelques recettes basiques quand même, quelles sont-elles?
Donc il y a toujours, un point de référence, c'est-à-dire une paire de haut-parleurs qui est la référence de l'orchestre. C'est en gros, l'idée, c'est qu'en écoutant une œuvre sur ces deux haut-parleurs au sein de l'acousmonium, on est censé entendre ce qu'a fait le compositeur chez lui dans son studio ou dans le studio dans lequel il a composé. C'est une des choses qui doit être présente dans un acousmonium et qui permet, même en termes de répétition et de préparation de spatialisation, de se confronter sans cesse à la réalité de l'œuvre fixé sur CD dans ce dispositif-là.
Le son, il enveloppe le spectateur, ou plutôt l'auditeur, sur 360 degrés ?
Oui, alors on travaille sur effectivement un espace qui est à 360 degrés. L'auditeur, le spectateur, auditeur, est plongé au centre de ce dispositif-là, c'est-à-dire plus précisément au centre de ce dispositif-là, il y a donc l'instrumentiste, l'interprète, le chef d'orchestre qui spatialise les œuvres, et autour de cet interprète, il y a donc le public qui est le plus possible resserré du point central de cet espace.
À l'occasion de ce concert, tu vas donner à entendre plusieurs pièces sonores qui émanent de compositeurs totalement différents les uns des autres. Par ailleurs, ces pièces seront spatialisées par plusieurs personnes. Art en Réel est un collectif, c'est donc globalement une approche très collective de la musique.
Oui, c'est vrai que c'est une approche très collective au sein de cet univers-là, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, les compositeurs qui composent des musiques sur support ont en général conscience de la finalité de leur œuvre, c'est-à-dire le concert sur orchestre de haut-parleurs, et donc très 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 généralement, en amont, dans leur travail de composition, ils prennent en compte le dispositif final, et donc ils donnent des clés déjà d'interprétation. Et leur musique, finalement, est construite dans la perspective d'une mise en espace. De la même manière, nous sommes compositeurs, nous avons le même type de fonctionnement avec nos travaux personnels, mais aussi, du coup, la capacité d'entendre ces choses-là dans le travail des autres et une certaine sensibilité qui nous permet de déchiffrer le travail des autres comme le nôtre, bien que, généralement, c'est toujours un autre interprète à qui on confie la spatialisation de nos musiques.
Est-ce qu'on peut donner quelques petits repères historiques? À quel moment est-ce qu'on a commencé à travailler sur cette spatialisation du son?
Alors, dès le début, en fait. De toute façon, dès la naissance de cet art qu'on appelait musique concrète, musique acousmatique, musique électroacoustique, tous ces noms s'entrechoquant, mais très, très brièvement, tout au début toutes ces appellations s'entremêlant rapidement. Dès le départ est présente l'idée de spatialisation avec une spécificité qui est celle de la perspective qui était celle des compositeurs de l'époque de la vision traditionnelle de l'orchestre, au sens où un orchestre, c'est un orchestre qui est présent en face d'un public qui est regroupé sous forme de pupitre, mais dans une situation plutôt frontale. Donc c'est vrai que les premiers orchestres de haut-parleurs ont été constitués à l'image de ce qu'on connaissait de l'orchestre, c'est-à-dire des situations plutôt frontales, et que progressivement, il y a la notion d'ouverture et d'éclatement de cet orchestre-là dans l'espace du concert qui s'est produite. Mais la question de la mise en espace, elle va avec la question de la composition, de la création.
On a évoqué tout à l'heure la multiplicité des sources sonores, des haut-parleurs qui sont disposés dans l'espace de la salle, mais il y a aussi au milieu du public une table de mixage qui est destinée à opérer proprement dit cette spatialisation. Est-ce que c'est un matériel d'un type particulier ?
Alors, du point de vue matériel, effectivement, ce sont des consoles de mixage. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous détournons l'objet pour lequel sont construits ces matériaux pour en faire autre chose. C'est-à-dire que l'utilisation que nous faisons d'une table de mixage n'est pas une utilisation type table de mixage. Donc il y a un détournement qui est fait de ces machines, de ces objets, un détournement qui est fait de leur objet initial.
À partir de cette table de mixage, il est question de travailler sur une musique fixée, sur un support. Sur quel type de support cette musique est-elle fixée ?
Alors généralement, traditionnellement on va dire, il y a un consensus qui se fait autour du CD, du support CD, qui se trouve être celui sur lequel sont gravées les œuvres et distribuées éventuellement dans le commerce, dans les réseaux de distribution classiques. C'est les CD d'origine, on va dire, que nous utilisons pour la spatialisation, même si effectivement nous pouvons nous permettre de prélever dans un CD une pièce et dans un autre CD une autre pièce pour constituer un programme sur un seul CD. Mais nous utilisons les CD originaux, en fait, pour mettre en espace les musiques qui sont présentes. Il y a aussi la possibilité, en fonction de certaines spécificités, d'utiliser un dispositif informatique dans le cas où le compositeur a besoin soit de projeter quelque chose, soit de projeter du texte, soit d'œuvres mixtes ou multicanaux. À ce moment-là, on utilise plutôt des dispositifs informatiques. Mais sinon, 90% des situations, les concerts se font à partir du CD.
Est-ce que toutes les musiques se prêtent à ce jeu de la spatialisation, ou est-ce que certaines y sont plus faciles que d'autres ?
Ben, en fait, je utiliserai un parallèle assez simple qui est finalement, mettons que nous voulions faire une soirée danse. On pourrait poser la question, est-ce que toutes les musiques se prêtent à la danse ou pas ? Et on pourrait y répondre tout simplement non, pas toutes les musiques se prêtent à la danse. Il y a des musiques qui sont faites pour l'écoute en petit groupe, des musiques qui sont faites pour une écoute assez large, type concert, puis il y a des musiques qui sont faites pour la danse. Donc pour la même raison, pas toutes les musiques se prêtent à la spatialisation, bien évidemment.
Et lesquelles s'y prêtent le mieux ? Enfin, s'il y avait des caractéristiques à évoquer ?
Donc, pour aborder ça en termes de genre, on pourrait dire que les musiques acousmatiques, concrètes, électroacoustiques, radiophoniques, poésie sonore sont des genres dans lesquels on peut trouver des œuvres qui se prêtent et qui ont un intérêt à la spatialisation. Ensuite, il y a une deuxième condition qui est aussi importante, c'est que le compositeur est dans sa création travailler sur une variété d'espaces, une variété de mouvements, des dynamiques, des rapidités, des lenteurs, des solos, des tutti, des pianos, des fortés. Et voilà, encore faut-il que dans l'œuvre, il y ait des choses à mettre en espace.
Le MP3 d'un côté et l'acousmonium de l'autre, ce sont donc pratiquement les deux pôles les plus opposés aujourd'hui en termes de qualité de restitution musicale.
Oui, on atteint là un écartement assez extraordinaire entre les qualités qui sont proposées sur les qualités type MP3 qu'on retrouve sur les téléphones portables qui sont devenus maintenant les principaux baladeurs des principaux outils de d'écoute musicale et effectivement l'écoute en concert avec orchestre de haut-parleur, c'est vraiment le grand écart. Pour une fois, on peut dire que la technologie n'est pas préjudiciable aux pratiques que l'on propose, dans la mesure où effectivement on pourrait aller en étant un petit peu ironique, plus le niveau qualitatif va baisser par ailleurs dans les écoutes domestiques, et plus le choc sera grand en termes de contraste quand on assistera à un concert de musique acousmatique. C'est plutôt favorable à ce que l'on propose pour une fois.
Dans cette proposition nocturne électro, est-ce qu'il appartient uniquement au son de sculpter l'espace, de rendre cet espace, l'espace de la salle, perceptible, ou bien est-ce que cette proposition est aussi accompagnée de lumière, éventuellement de projections d'images?
Donc, dans l'idéal, je pense que toutes les structures qui organisent des concerts de musique sur support, de musique spatialisée, on souhaite et désirerait faire des créations de lumière. Alors pas au sens son et lumière, hein, on n'est pas on fait pas du Jean-Michel Jarre, c'est pas la question du tout. Mais effectivement, l'habillage, enfin la scénographie d'un lieu du point de vue de la lumière constitue quand même un élément intéressant pour un concert où finalement il n'y a rien à voir. Seulement, effectivement, c'est des questions qui sont très complexes. Les créateurs lumière, ça court pas les rues non plus. Et les coûts deviennent tels de nos jours que ces choses-là sont difficiles à assumer. Donc il y a un consensus qui existe autour de ces concerts-là. C'est qu'il y a quand même des partis pris assez minimalistes qui sont faits sur le traitement lumière des lieux, avec comme contrainte l'idée que le spectateur est plutôt dans la pénombre, que quoi qu'il arrive, il a la capacité de lire ce qui est écrit sur un programme, de parcourir une notice d'œuvre ou une biographie de compositeur, et qu'on essaye finalement d'arriver à pouvoir avoir des espaces en termes d'éclairage qui soient plutôt simples, qui permettent d'articuler des parties de programmation, qui permettent de suivre un programme, c'est-à-dire qu'on passe d'une partie qui est composée de plusieurs œuvres à une autre partie qui est composée d'autres œuvres, en passant d'un espace, d'un point de vue lumière, à un autre espace. C'est à peu près le consensus auquel on arrive, mais on n'est pas dans le son et lumière du tout. Il s'agit absolument pas d'accompagner l'orchestration qui est faite et la mise en espace qui est faite de ces musiques-là par une orchestration parallèle qui serait composée de lumière. C'est vraiment des concerts qui sont dédiés à l'écoute, qui sont faits finalement pour partager des moments d'écoute privilégiés en commun, mais en étant finalement assez solitaire assez solitaire au bon sens du terme en fait. Hein, c'est des moments qui ouvre à l'imaginaire intérieur de chacun, qui laisse de la place pour le développement personnel de cet imaginaire-là, mais c'est des moments qui sont quand même partagés à plusieurs.
Après ces quelques précisions sur la spatialisation du son apportées par Lionel Kasparian, on va maintenant à la rencontre de Gregorio Nardi, pianiste, pour une chronologie subjective et sensible de la musique du XXe siècle. Gregorio Nardi, bonjour.
Bonjour, Xavier.
Le mardi 19 mai, aux archives du département, vous proposiez à du piano un récital, une série d'allers-retours choisis entre des compositeurs choisis, mettant notamment en exergue les liens et les influences dans la composition musicale au XXe siècle. Cette évolution musicale au cours du XXe siècle, est-ce que vous la percevez comme une évolution continue ou plutôt comme une suite de révolutions, ce XXe siècle qui était un siècle très révolutionnaire?
Oui, c'était révolutionnaire, mais je crois que l'idée de révolution dans l'art, dans ce cas-là, au moins, c'est très publicitaire. C'était une façon que les compositeurs, ou peut-être les gens qui étaient proches des compositeurs, ont très souvent utilisé pour vendre les produits musicaux. Alors que je ne crois absolument pas que ni Stravinsky ni Schoenberg avaient idée d'une révolution. Au contraire, ils avaient idée d'une très profonde identification et interprétation de la tradition. C'est que ça fait... Bon, là, j'ai un exemple très fort pour moi. C'est l'exemple de Brahms. Brahms qui suit de façon presque maniacale l'exemple de Mozart, de Beethoven, de Schubert. Et si faisant, il découvre dans leur musique les moyens de s'éloigner d'eux. Ça veut dire que si on utilise les instruments de Mozart, on s'éloigne de Mozart. Alors que qui copie de façon bâton, alors il reste toujours là, mais s'éloigne de notre façon. Et donc Brahms, qui, en essayant d'être toujours proche de la tradition, découvre être le plus révolutionnaire de son époque. De quelque façon, le XXe siècle a fonctionné de façon semblable. Les plus révolutionnaires, finalement, ont été les compositeurs qui ont eu moins d'influence sur ce qui se passe aujourd'hui.
Ce programme proposé, il met en aller-retour des compositeurs phares signifiants du XXe siècle. Et on commence par exemple par une mise en abîme ou en miroir de Robert Schumann, le post-romantique, avec Henri Pousseur, qui bien sûr a composé pour piano, mais qu'on connaît surtout comme compositeur précurseur de la musique électronique. Alors est-ce que ce sont un peu deux pôles opposés de ce XXe siècle du point de vue de la création musicale ?
Avant tout, ce beau que tu appelles post-romantique Schumann, c'est intéressant, parce que c'est le plus romantique de tous les compositeurs. Mais c'est vrai que ce que nous entendons d'habitude, les symphonies, la musique de chambre, les grandes œuvres pour piano, ils sont déjà des œuvres qui ont digéré le romantisme. Mais ce que je joue maintenant, ça appartient encore à la jeunesse de Schumann, quand encore il est en train d'expérimenter de façon très profondément romantique. Là, j'aurais quelque chose à dire, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Avant, pour ce qui concerne les programmes, c'est intéressant dans ce sens-là, parce que Pousseur a travaillé de façon très analogue à Schumann, surtout dans ces morceaux que je joue, Icare obstiné. Ce sont des formes de développement qui, quand même, comme un chat qui se mord la queue, et retourne toujours au point de départ. Ça veut dire on continue à marcher avec une grande fantaisie, une formidable fantaisie, mais cette possibilité infinie d'ouverture, que Schumann connaît très bien, enfin ne développe vraiment pas les matériaux, comme par exemple un Beethoven ou un Boulez d'un autre côté on fait. Et ça en l'entendant, les morceaux de Schumann, les morceaux de Pousseur, l'un après l'autre, ça, c'est très clair pour le public, c'est ce qui se passe. Mais là, il y a des mouvements beaucoup plus complexes, avant tout avec Kurtag. Kurtag est avec ses Yatekok, ses jeux pour piano, il s'est sans doute inspiré par Schumann. Je ne le savais pas, c'est lui qui me l'a dit l'automne passé, qui m'a expliqué ça. Et en s'inspirant à Schumann, il a essayé de retrouver dans Schumann la capacité, avec peu de notes, avec des formes petites, de mettre vie à la mémoire, de donner vie à la mémoire. Après Kurtag, je joue les variations de Webern. C'est quand même le grand amour, c'est les modèles de Kurtag. Webern, lui aussi, avec peu de mots, peu de notes symboliques, peu de allusions à quelque chose qui se passe, quelque chose qui peut sembler, si mal joué, très raide, très aride. Et au contraire, ça, c'est une orchestration presque post-romantique, là vraiment décadent des cordes, des cuivres, des instruments, un peu de notes, rien de tout qui se passe. Là, donc, nous avons Kurtag et Webern qui sont très liés par cette capacité de travailler avec peu de notes. Schumann et Pousseur qui travaillent ensemble de façon de développement de la forme, mais Kurtag qui est très proche de Schumann pour la capacité d'allusion et travail sur la petite forme, et en même temps Pousseur qui a été quand même le plus grand analyste de Webern qui a jamais vécu. Donc les quatre sont très fortement liés.
Thank you.
Tu l'évoquais à l'instant, Georgi Kurtág a été considérablement influencé par Anton Webern et sa musique sérielle, le dodécaphonisme. Et l'autre grande influence évidente de Georgi Kurtág, c'est bien sûr la musique hongroise, Bartok évidemment, une tradition musicale dans laquelle on intègre volontiers des mélodies populaires. Peut-être au contraire de la musique de Webern qu'on associe aujourd'hui à une musique très élitaire. Alors ça nous repose cette question de la place de la musique populaire, du savant et du populaire dans l'évolution musicale au cours du XXe siècle.
Non, Xavier, ne me fais pas parler de ça, parce que là, on passe toute la journée à t'en parler du rapport entre les populaires et les savants. C'est très difficile. C'est très difficile parce que, qu'est-ce que je pourrais te dire? Par exemple, que, bon, c'est normal si on demande à une vieille dame hongroise de nous raconter des histoires de son enfance, de retrouver la racine vivante de la fable de l'Est européenne. Alors qu'en Allemagne, ça, on ne le trouvera pas. Parce qu'avec, après les frères Grimm, on a académisé l'idée du conte de fées. Et donc, là, en Allemagne, tout s'est passé de cette façon-là. Tout a été historisé. Donc, on a l'impression de ne pas avoir devant nous une tradition populaire. Mais en effet, ce n'est pas vrai. C'est que la tradition populaire est devenue savante en Allemagne. Et donc, les deux choses se retournent. Le problème, c'est toujours de se demander si la musique européenne doit être vue d'une façon germanocentrique et après aussi francocentrique, ou s'il y a beaucoup de traditions différentes qui nous permettent de bouger de façon plus ductile. Un problème semblable, on pourrait le trouver avec Britten en Angleterre. Est-ce que Britten utilise du matériel populaire ou non? Ou est aussi un compositeur savant? Là, on ne pourrait vraiment pas répondre en deux mots. Et là, sur ce qui concerne Kurtág, quand même, l'utilisation de la musique populaire, là, ça nous donne quelque chose d'exceptionnel. Et ça, les lie fortement à Schumann. Et c'est une façon, c'est pas seulement de la citation d'une mélodie populaire, chose qu'il fait très souvent, mais c'est la façon dans laquelle il le fait. Et je t'explique ça. Quand j'ai lisé les contes de fées de Brentano, je me trouvais devant des contes de fées assez ingénus, comme ma mère m'avait raconté quand j'étais enfant, mais raconté d'une façon que je ne m'attendais pas. Par exemple, je pourrais te dire qu'il y a trois fèvres qui sont en train de sortir de leur usine et ils passent dans une rue, et il y a un bois autour et le jour est en train le soleil est en train de se coucher et ils sont en train de retourner à leur maison, pointe. Ou, comme il fait Brentano, il se trouve sur la montagne, il regarde loin, il voit ces trois géants avec trois marteaux sur les épaules, il a peur de ça, il voit le soleil couchant, il imagine quelque chose d'apocalyptique, puis il voit les bois, il se demande où ils sont disparus dans les bois, il ne se dira jamais, il se retourne à la maison. Ils vont dans les bois chercher quelque chose, pris par un cauchemar, il s'enfuit et il va vers la mer. C'est exactement la même chose, seulement vu de deux façons différentes. L'une d'une façon complètement fantastique, l'autre d'une façon, disons, réaliste. Ça, c'est la façon dans laquelle Schumann a travaillé beaucoup dans sa jeunesse. Il prenait des mélodies absolument normales, très normales, et il a commencé à les bouger, les faire plus lentes ou plus vite, changer l'harmonie, changer la position au milieu d'un morceau, pour créer, j'ai dit, quelque chose d'oraculaire. Je crois qu'on pourrait dire... c'est une métamorphose, oui, bien sûr, mais c'est une défiguration de la mélodie. Même chose, il fait Kurtág. Et ça travaille beaucoup sur la mémoire de chacun de nous. Ça veut dire une mélodie que nous ne connaissons absolument pas, proposée d'une certaine façon, ça nous dit quelque chose. Parce que c'est la façon dans laquelle cette mélodie est proposée qui touche notre mémoire. Parce que nous connaissons déjà la même façon de regarder une autre mélodie, mais avec la même peur, amour, appréhension ou n'importe quelle surprise.
Cette posture critique de l'artiste à l'égard de l'art, est-ce qu'elle te semble caractéristique de l'art contemporain et partant de la musique contemporaine, ou bien est-ce que selon toi, elle a toujours existé à toute époque ?
Selon moi, comme interprète critique moi-même, oui, ça a toujours existé. Je trouve impossible que certains morceaux de Chopin, dans lesquels les contemporains disaient c'est terrible, c'est affreux, ça fait peur ce qui se passe, maintenant il faut les accepter comme si c'était une beauté qu'on n'avait pas compris à l'époque et que maintenant il faut accepter en disant ouais, mais voilà, c'est une nouvelle règle, c'est une nouvelle beauté, c'est un nouveau ordre. Non, je ne le crois pas. Je crois que quelque chose de critique qu'il y avait à l'époque reste. Busoni avait dit une chose très intelligente et très difficile à propos de l'appassionata de Beethoven. Il disait si quelqu'un l'a appelé appassionata à l'époque, c'est parce qu'effectivement on n'avait jamais entendu quelque chose de si passionné. Mais maintenant qu'on a entendu des choses beaucoup plus passionnées, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il fait l'interprète maintenant? Il joue plus passionné qu'avant pour laisser intacte la grande surprise envers le public, envers soi-même, devant la partition. Ou plutôt, et ça c'était la proposition absolument impossible de Busoni, ou plutôt on change l'écriture de Beethoven, on le retransforme, on le recompose pour laisser intacte la grande surprise. Là, ça restera toujours un problème comme ça. C'est vrai quand même que les grands chefs d'œuvre de l'histoire de la musique, ils portent avec eux soit les grands doutes, la grande question à laquelle on ne peut pas répondre, soit de quelque façon en même temps la réponse elle-même. Là, je me permets de citer Walter Benjamin, lequel, lui, il a toujours été le grand maître pour toutes ces choses, et Benjamin qui disait si on ne trouve pas une solution à une question posée, il faut accumuler toutes les questions et sans doute le résultat sera la réponse. Je crois qu'aussi un interprète aujourd'hui, et aussi je le demande aussi du public, doit faire ça. Là, permette-moi une autre citation, c'est de Pétrarque. Pétrarque qui dit « Je ne veux pas qu'on lise sans fatigue ce que j'ai avec fatigue et que j'ai écrit ». Et ça, je le trouve exceptionnel. Et ça, je trouve que le public et les interprètes devraient faire un peu plus de fatigue et s'amuser bien de cette fatigue.
Pour conclure cet entretien et pour revenir à un des compositeurs qu'on évoquait il y a quelques minutes, Henri Pousseur. Henri Pousseur a commencé à composer pour le piano, puis il a été, on le disait, un des précurseurs de la musique électronique. Comment est-ce que toi, en tant que pianiste, tu perçois cette évolution musicale? Est-ce qu'il t'arrive d'être tenté de jouer sur un autre clavier que celui d'un Steinway? Et comment est-ce que tu perçois l'évolution musicale qu'induisent aujourd'hui la musique électronique?
Pour ce qui concerne le possible rapport entre ce qui était l'écriture de Pousseur avec l'électronique, je crois qu'il partageait très bien les choses. J'ai travaillé tant d'années avec lui. J'ai commencé en 91 à travailler avec Pousseur. C'était une belle amitié. J'ai souffert beaucoup cette année quand il est mort.
Il est décédé il y a quelques mois.
Si. Très très récente, c'est vraiment, vraiment dommage pour moi. Et là quand même il avait partagé beaucoup de choses. Le piano, ça restait, c'est très limitatif de dire ça restait, mais c'est focalisé surtout sur un instrument artisanal pour lui. Sauf peut-être sur les morceaux que je joue à ce festival, les Icare Obstiné, qui quand même il ne considérait pas très profondément. Il aimait ça, mais c'était d'autres morceaux pour piano qu'il estimait à lui-même. Quand même pour ce qui concerne l'électronique, là, la question est toujours ouverte, dans le sens que, surtout, c'est récent la possibilité d'une utilisation géniale, créative de l'électronique. Là, il faut remercier Boulez avec tous les travaux de Camp, parce que vraiment, il a détaché toutes les recherches de ce qui c'était un peu les magnétophones et ce qui c'était quand même les quelque chose de figé, qui n'avait pas de possibilités interprétatives. Et maintenant, lui les a trouvées, il est en train de les développer d'une façon exceptionnelle. Mais là, les rencontres avec les instruments traditionnels, disons comme ça, classiques, est toujours difficile. C'est quand même un rapport bâtard. Et de là, je vais être très positive, bâtard dans le plus beau sens du terme. Et il faut voir quand ça c'est possible et quand ça c'est simplement une excuse pour essayer de moderniser un vieux timbre. Mais là, je dois dire aussi une chose, que Et là, ce n'est pas une question liée à l'instrument lui-même, mais toujours à l'interprète. Moi, je trouve que, par exemple, le piano, c'est dommage qu'on avait commencé au début de ce siècle passé, du 20e siècle, on avait commencé vraiment à chercher dans l'instrument des possibilités inouïes. Je ne parle pas seulement de Debussy, de l'impressionnisme, mais on a dit maintenant Ives, on a parlé de Bartok, on peut continuer così, mais même Schumann de sa façon. Ils ont cherché de transformer l'instrument piano et de jouer tous les pianos dans toutes ses possibilités. Puis il y a eu une vague néoclassique qui nous a donné des pianistes magnifiques que je respecte infiniment, mais qui de façon timbrique, un peu gâcher la grande recherche. Et là, je me demande si un instrument comme le piano, autant qu'il est capable d'imiter et apprendre quelque chose des instruments anciens, il n'est pas capable d'apprendre de la musique électronique. Sans doute oui, je crois. Sans doute oui, et ça, dans une sonate de Mozart, hein, pas seulement dans la musique contemporaine.
Merci, Grégorio Naldi.
Merci à toi, Xavier.
Prochain rendez-vous d'Espace-Temps, ce sera samedi 23 mai à 14h30. Le festival Les Musiques, proposé par le GMEM, continue et bat son plein jusqu'au 26 mai. Toute la programmation est sur le site www.gmem.org.